Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, je reçois la journaliste Isabelle Dilmant qui nous propose un très beau livre d'entretien avec le patriarche libanais Béchara Raï. Au cœur du chaos, paru chez Albin Michel, un récit qui ne laisse pas indifférent et qui nous permet de mieux connaître cette personnalité exceptionnelle. Vous vous êtes fait une spécialité des grands entretiens de chefs d'État et d'autres genres de personnalités aussi, vous nous en direz un peu plus. La question première que je voudrais vous poser, c'est comment vous avez abordé la figure du patriarche d'Antioche, donc le patriarche des Maronites qui, rappelons-le, sont la communauté principale des chrétiens du Liban. Comment s'est passée cette rencontre, Isabelle Dilmant ?
Dilmant, Sébastien.
Pardon.
Écoutez, ça a été évidemment... un souhait d'aller à la rencontre du 77e patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient, élu, je le rappelle, le 15 mars 2011 comme l'homme providentiel dans ce contexte des printemps arabes. Et cette personnalité élue à l'unanimité par ses évêques. Il succède donc au patriarche Sphère qui démissionnait à l'âge de 91 ans dans un contexte plus que chaotique et plus que mouvementé. Et c'est donc finalement le désir d'aborder avec lui ces hivers rigoureux qui allaient se succéder, comme on le voit, puisque nous sommes maintenant à presque 5 ans de ces révolutions, le désir de mieux comprendre ce qu'était, ce que peut être un homme d'Orient, né en Orient, de langue arabe, un arabe chrétien, dans un contexte bien particulier qui est celui du Liban, un état tampon qui est situé géographiquement, subit évidemment par procuration les guerres de la région, comment cet homme, élu patriarche, encore une fois je le redis à l'unanimité, premier moine religieux à avoir été élu patriarche, également la même chose quand il a été élu évêque, il est important de comprendre que l'ordre maronite libanais a été créé à la fin du XVIIe siècle, en 1695, et que le patriarche, il n'y avait jamais eu de patriarche moine. J'insiste là-dessus parce que...
C'est-à-dire parce que les évêques sont plutôt des moines, non ?
Les évêques sont des religieux.
Donc
il y a l'ordre
oui.
séculier et l'ordre régulier.
D'accord.
Et c'est la première fois que le synode des évêques a élu un religieux moine.
Alors qu'est-ce que ça apporte de plus à votre avis ?
Ça apporte une dimension qui a tout de suite été d'ailleurs marquée par le patriarche, qui est une dimension beaucoup plus communautaire à la vie dans le patriarcat. On sent qu'il y a une vie plus conventuelle. On sent, si vous voulez, que cette formation de moine marque les esprits parce que le mode de vie est différent, parce qu'il souhaite qu'il y ait une vie réelle de communauté que j'ai partagée, que j'ai vécue avec une messe communautaire entourée de tous ces évêques et de tous ces religieux. Il y a une fraternité, il y a une règle d'obéissance qui est importante. Et il y a sans doute cette particularité propre au patriarche, une nature profondément mystique, tout en étant un grand communicant.
Comment vous l'avez rencontré ? Comment ça s'est passé ?
Moi, j'ai eu envie de le rencontrer pour la première fois. Je collabore à la Revue des Deux Mondes et j'ai souhaité aller vers lui. C'est un peu comme ça que je travaille, Sébastien, dans tous mes grands entretiens avec des personnalités remarquables. Je pense qu'il faut s'immerger. Je pense que pour comprendre, il faut se donner et notamment se donner du temps. Et je reste en général plusieurs semaines. Si je peux, évidemment, je réponds à l'invitation qui m'est donnée. Je l'avais donc rencontré pour la Revue des Deux Mondes. Beaucoup moins de temps que 3 semaines. Je suis restée 3 jours à Beyrouth et vraiment, immédiatement, j'ai été séduite par la beauté de cet homme, mais une beauté qui respire la vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase merveilleuse de Solzhenitsyn, quand Solzhenitsyn dit « Si la vérité est remplacée par le silence devient un mensonge ». Alors, ce que j'aime, c'est chez ce patriarche qui a été formé chez les jésuites de Jamour, si on fait un bref petit parcours en arrière, à 12 ans, il a eu la vocation. Il est rentré comme postulant, puis au noviciat, et il a été formé, alors justement, dans la règle des moines mariamites maronites, où... Quand ils postulent, ils sont aussi des moines agraires, des moines qui travaillent la terre, des moines qui construisent des maisons, qui déchirent leurs soutanes. Et c'est avec également la vie oratoire, très important, cette dimension spirituelle qui ne l'a jamais quitté. Il a été préempté par les jésuites de Jamour, il est arrivé à 17 ans, en cinquième. Avec sa soutane, plus grand que les autres, évidemment en âge et en taille, mais avec une expérience très riche également, totalement accepté par ses camarades de classe, car les moines font partie de la vie sociale et du tissu social au Liban. Et en 3 ans, il a rattrapé tout le monde. Il est devenu premier dans toutes les langues, bien qu'il eût beaucoup de mal à maîtriser le latin et le français, pour ensuite faire sa philosophie scolastique et ses études à Rome de théologie, de droit canonique. Mais chez les jésuites, ce qui m'intéressait, bien sûr, puisqu'on a un pape qui est jésuite, c'était de comprendre ce qu'il avait récolté chez les jésuites. Finalement, je lui ai posé la question de la radicalité jésuite. Et ce qui l'a intéressé, c'est la façon dont les jésuites pointent l'intériorité et l'expérience directe avec Dieu. Et il me racontait qu'avec ses amis musulmans, beaucoup de musulmans font leur classe chez les jésuites au Liban, les musulmans venaient très librement à la messe, venaient très librement suivre la catéchèse, et un de ses meilleurs amis, notamment... avait les premiers prix de catéchèse régulièrement. Et ça m'a intéressée parce que ça rejoint cette idée qu'il a développée plus tard dans nos entretiens, que pour lui, l'identité est plus forte encore que l'amitié. C'est-à-dire qu'entre ce chrétien d'Orient, pour l'Orient, qui vit en Orient, qui ne parle d'aucun autre surplomb occidental, lui, ce qui compte, il vaut mieux... cette coexistence islamo-chrétienne qui définit très bien le Liban, il préfère la vivre avec un musulman qu'avec un chrétien d'Occident. Car entre musulmans et chrétiens, ils ont créé une identité.
Nous fêtions la Pentecôte avant l'islam sur une terre arabe. Nous sommes arabes, mais pas musulmans. Nous avons toujours refusé de parler en termes de minorité au profit du droit et de la citoyenneté, dit-il. Les chrétiens ne se distinguent des autres ni par le pays, ni par la langue, ni par les coutumes, et se conforment aux usages locaux dans la façon de s'habiller, de se nourrir, de vivre. Notre histoire en Orient va bien au-delà d'un rôle mémoriel comme représentant du christianisme le plus ancien. Cette idée de citoyenneté est très importante pour le ciment de ces communautés. Cette citoyenneté, est-ce que
moi,
vous l'avez touché
vécu.
Du bois
voilà,
est-ce que vous l'avez touché du bois?
C'est exactement. Je l'ai vécu. Alors, je l'ai vécu en l'accompagnant. Vous savez, je suis restée près de 4 semaines avec le patriarche l'été dernier, en le retrouvant dans la vallée sainte, dans la vallée sainte de Kadisha,
qui est au nord du Liban.
Ah, qui est extraordinaire, qui est au nord du Liban, qui résonne de ses torrents, de ses sources, de ses cascades, avec ce surplomb magnifique. Le soir, on entend les louanges divines de l'ancien monastère de Kanoubine, de ses sœurs Antonines, qui vivent à 3 ou 4 et qui cultivent leur potager. On est à la fois dans les profondeurs de la vallée et dans ces sommets qui montent à 2000 mètres. D'ailleurs, la terrasse de l'ancien couvent, qui est aujourd'hui la résidence patriarcale du patriarche, domine tout ça. Et c'est aussi, Sébastien, dans cette vallée sainte de la Kadisha, que les patriarches, entourés de leur communauté, sont venus se réfugier dans des périodes sombres de l'histoire. Hein, parce que les périodes mamelouques et ottomanes n'ont pas fait beaucoup de cadeaux à ces communautés chrétiennes. Alors c'est très émouvant évidemment parce qu'on ressent à la fois cette vibration spirituelle, ces grottes qui ont été creusées à la main. Il y a encore 4 ermites hein, qui vivent là. Alors votre question était comment j'ai ressenti cette coexistence islamo-chrétienne. J'ai accompagné le patriarche dans ses visites pastorales et c'était assez extraordinaire de voir qu'il est à la fois le patriarche des chrétiens et des musulmans, presque plus des musulmans, des druzes, des chiites, des alaouites.
Vous le dites dans votre livre, il est reçu partout comme un homme très important, un homme de son rang.
Il est reçu au-delà même de son rang. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a évidemment une hiérarchie certaine et un grand respect hein, du clergé des prélats en Orient. Mais on dit qu'il est un signe de Dieu, qu'il est le premier patriarche, qu'il est l'apôtre des apôtres. Et on aimerait même qu'il prenne des dispositions plus concrètes sur le plan politique. Vous savez malheureusement que là, on entame la troisième année de vacances présidentielles, ce qui est une profonde blessure pour le patriarche. Parce que dans cette tradition, de l'église maronite, dont il ne faut pas oublier qu'elle est de tradition syro-antiochienne, elle est née autour d'un ermite araméen, d'un anachorète, hein, maronne, qui vivait d'ailleurs près d'Antioche. Et ça a été une communauté de disciples, plus encore qu'une église, même si ça a été le noyau spirituel qui s'est formé autour de Maronne, puisque le premier patriarche n'arrive qu'au 7e siècle. Et ensuite, ils ont subi, ces maronites, les persécutions, mais les persécutions de certains monophysites, hein, syriaques, des éphésiens. Ils ont subi les persécutions des nestoriens. Il faut se rappeler ce qu'était le concile de Chalcédoine en 451, la double nature du Christ. Les monophysites n'en voyant qu'une, la nature divine. Les monothélistes voyant la double nature mais une seule volonté. Non, les maronites sont toujours restés dans la voie de l'église de Rome. D'ailleurs, c'est la communauté catholique la plus importante au monde et qui a toujours été non pas fidèle mais jamais séparé à Rome depuis ses origines. Donc cette force d'âme a fait que ce sont les maronites qui sont à l'émergence aussi de l'idée de ce grand Liban et de la nation du Liban. En 1920, c'est le patriarche Ohayek qui menait la délégation pour les frontières du grand Liban.
Alors ce que vous dites sur l'histoire de l'Église, j'y souscris, mais me semble-t-il, avant de parler de Rome, il faut parler d'Église d'Orient peut-être. Vous avez mentionné Antioche
bien
avant
sûr.
Tout, pour pas qu'il y ait vraiment de confusion dans l'esprit de nos auditeurs. C'est vraiment une Église d'Orient,
oui.
Orientale, donc d'origine araméo-syriaque, comme vous l'avez dit, qui parle l'arabe. Et qui n'a jamais été en conflit avec Rome.
Absolument.
Peut-être de cette manière-là,
voilà,
on peut le présenter.
Oui.
Par rapport à Constantinople, donc qui était la grande ville de l'Empire byzantin, cette capitale, donc où le concile de Chalcédoine s'est décidé, qui est Kadıköy, qui est sur la rive asiatique d'Istanbul. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que dans vos propos, on le voit très très bien quand le patriarche insiste là-dessus, c'est que c'est l'Église d'un pays. C'est le Liban.
Absolument.
Il est libanais. Peut-être avant même d'être chrétien ou pas.
Il est libanais parce que chrétien. Parce que chrétien maronite. Parce que chrétien maronite, et il est au-delà des clivages, le patriarche Ra. Il représente vraiment beaucoup, beaucoup. C'est une figure de proue. Il est extrêmement écouté par toute la population. Il dérange d'ailleurs. Il est assez critiqué et il le sait. D'ailleurs, il le dit à un moment, il le dit d'une manière... Il le sait, mais pour lui, la vérité. Je crois qu'il a été très marqué par Jean-Paul II quand il était vicaire général du patriarche Sphère.
Vous avez écrit sur Jean-Paul II aussi.
Oui. Absolument, parce que Jean-Paul II a eu cette vision en pape combattant, militant finalement, de comprendre que le Liban était un pays message et que le Liban avait une valeur civilisationnelle extraordinaire. Et ça, le patriarche s'est armé beaucoup de courage pour parler comme il l'a fait, quoi qu'il en soit, et quelques critiques qu'on lui fasse.
Comment vous avez travaillé ? Donc vous parliez de la Vallée Sainte, vous parliez de plusieurs séjours à Beyrouth. C'était des entretiens agréables, familiers, où le patriarche reste patriarche dans sa fonction quand il se confie ?
Alors évidemment, j'ai rencontré un homme de Dieu, je rajoute, c'est sa particule à lui, hein. C'est intéressant de voir d'ailleurs quel est son caractère. Son caractère, c'est un homme à la fois... Il dispense une grande équanimité. Il est un pour tous. Il est toujours égal d'humeur. Vous savez, la différence quand vous passez des semaines, des jours et des jours avec quelqu'un, c'est que vous sentez très vite si cette personne incarne ou pas ses valeurs. Jamais je n'ai senti un geste d'agacement malgré la charge, non pas charge, la surcharge de travail du patriarche. C'est un homme, c'est un mystique qui a son sanctuaire intérieur en lui, que l'on peut approcher bien sûr, mais j'ai toujours veillé puisque je partageais cette vie communautaire, que ma chambre était, indépendamment des appartements des secrétaires, la plus proche des appartements privés du patriarche, j'ai toujours veillé à ne jamais déborder du temps d'entretien qu'il allait m'accorder, dont je ne savais jamais ni la date, ni le jour, ni l'heure. Nous avions des entretiens relativement réguliers, mais parfois l'emploi du temps faisait que ça devenait impossible. Donc j'ai été très vigilante, parce que c'est un privilège de pouvoir partager ce temps-là, d'être en poste d'observation. Justement, je ne le voulais pas. Je voulais être, au-delà même d'une invitée, partager leur vie, partager les prières du matin dans cette chapelle du soleil levant, avec justement cette liturgie maronite très belle, où il y a encore quelques belles prières en syriaque. La consécration, le baiser à l'autel, et puis cette Vierge, parce que ce sont les litanies de saint Éphrem qui reviennent sans arrêt dans ces prières. Ce cœur d'homme qui chante. Le patriarche m'avait ému parce qu'un soir, très simplement, avec beaucoup de douceur, il ne manifeste pas une autorité pesante, a dit à tous ces religieux, ces corps évêques, ces vicaires, demain j'aimerais que vous soyez plus proche de moi près de l'autel. Et le lendemain, effectivement, tout le monde était là et chantait les litanies de la Vierge. Donc je partageais les laudes, les vêpres, les repas, parfois même les petits déjeuners où le patriarche détendait beaucoup l'atmosphère, mais avec un grand respect qui n'empêchait pas des rapports à la fois très francs et très spontanés. Mais il reste le patriarche et il reste toujours un peu en retrait de lui-même. C'est en ce sens que je dis qu'il vit à l'intérieur, il est moine. C'est en ce sens-là que l'on sent ce sanctuaire de Dieu qui est en lui, dont il a besoin.
Par rapport à ces personnalités dont nous parlions tout à l'heure, que vous aviez rencontrées, je vois le Dalai Lama aussi, Mère Teresa et donc le pape Jean-Paul II, Rafik Hariri, Muammar Kadhafi dans un autre genre, Hamid Karzai ou Sadruddin Aga Khan. Comment vous le situeriez par rapport au niveau international, ils ont cette aura dont vous parlez si bien?
Moi j'ai été évidemment marquée par chacun, mais j'ai été très impressionnée par Sadruddin Aga Khan, quand il était haut coordinateur des réfugiés aux Nations Unies. C'était un peu ça aussi. C'était un mystique dans le monde. Il n'avait pas... Il était ismaélien, comme vous le savez. Mère Teresa m'a beaucoup, beaucoup impressionnée. Je l'avais retrouvée à Manille, aux Philippines, où j'allais en mission pour interviewer la présidente Corazon Aquino, et j'allais tous les matins chez les missionnaires de la Charité. La première fois où je l'ai vue, j'ai vu une femme abîmée dans sa prière, transformée de matière humaine en matière minérale, et j'avais repérer cette croix nue sur le mur ou cette phrase incroyable, j'ai soif. J'ai soif, j'étais plus jeune que maintenant et je me demandais comment moi je pourrais répondre aussi à cette soif d'absolu. J'ai toujours aimé rencontrer ces personnalités plus que remarquables parce qu'elles ce sont de vraies individualités. Ils nous font aller plus loin simplement en les observant, en les regardant dans le silence souvent. Souvent j'ai observé quelques gestes du patriarche, une immense attention aux autres, même à table. Chaque bénédicité, c'était le patriarche Sfer qui est en face de lui, qui a fêté ses 90 ans il y a quelques jours.
Que vous avez rencontré aussi.
Bien sûr, j'étais assise à côté de lui, car ma place était attribuée par le patriarche.
Peut-être faut-il expliquer qui est-il ?
Le patriarche Sfer, Nasrallah Sfer, ça a été un patriarche très important parce qu'il a fait la paix de la montagne. Il a eu ce magnifique discours en 2001 de la montagne. Vous savez, ce pays, ce Liban, c'est un pays qui a été déchiré hein, par la guerre civile, déchiré par les fratries, déchiré par ces familles chrétiennes aussi qui se sont tuées, entretuées, et cette mémoire est encore très très douloureuse. Donc le patriarche a beaucoup marqué toutes ces années-là. Et c'est un homme très silencieux, qui a un sourire énigmatique que l'on interprète comme on veut. D'ailleurs, il y a une très jolie anecdote du patriarche Schrey. Quand il était vicaire général, il me disait qu'il était obligé de deviner les pensées du patriarche Sfer pour pouvoir porter sa parole, et que ce n'était pas toujours facile.
Et comment la succession s'est faite entre les deux?
L'un a démissionné. Et donc l'autre n'a jamais rien demandé. C'est une particularité du patriarche Schrey qui me dit, vous savez, je suis née à Himalaya, dans un petit village de montagne très pauvre, cadet d'une fratrie de 8 enfants, mon père n'avait même pas une voiture, j'aurais dû avoir la vie de mes frères et voilà, je n'ai jamais rien demandé. Il s'adresse beaucoup au Saint-Esprit, vous me voulez, je suis là, je ne demande rien. Donc la succession s'est faite par les évêques, par le synode, à l'unanimité. Quand j'ai posé la question, pourquoi l'unanimité? Parce qu'on veut que vous ayez vraiment les mains libres dans une période chaotique de l'histoire.
Et le prédécesseur est toujours dans un monastère, est toujours...
Il vit au patriarcat avec le patriarche, il vit au patriarcat de Pkerke, qui est à une demi-heure de Beyrouth, et évidemment, dès que le patriarche se déplace, surtout l'été en Vallée Sainte à Dimane, où les pommes ne mûrissent qu'en octobre et où il fait absolument bon vivre, même si on est quand même proche des frontières syriennes et proche de ces villes et de ces routes où il y a encore des rapts et d'une grande insécurité.
Il parle beaucoup de l'actualité dans son livre.
Pardon ?
Il parle beaucoup de l'actualité de la Syrie.
Oui, beaucoup.
On le sent très préoccupé.
Vous savez que il a été premier dans beaucoup de domaines. Il a été le premier patriarche à se rendre en Terre Sainte. Aucun patriarche n'avait posé le pied depuis 1948 en Terre Sainte. Donc ça, c'est vraiment très important. Il s'est rendu aussi deux fois de suite en Syrie, malgré toutes les pressions, malgré toutes les critiques, pour retrouver ses communautés et surtout donner de l'espoir à ces chrétiens à l'Orient. Il y a une phrase qui revient très souvent chez le patriarche. Il dit, cette phrase de saint Augustin, ça a été d'ailleurs ses études autour de Teilhard de Chardin, de saint Thomas d'Aquin, « Si je crois, j'espère, et si j'espère, j'aime ». Il y a une grande espérance, il n'est pas en déficit d'espérance.
Dernière petite question, Isabelle Dilman, vous qui êtes maintenant une familière du Liban et peut-être, je sais aussi, d'autres pays d'Orient, vous êtes optimiste pour l'avenir de ces communautés, pour une forme de stabilité qu'elles représentent ou pas ?
On est en Terre Sainte, on est en Terre d'éternité. Je ne suis pas optimiste, je suis même profondément inquiète. Mais tant qu'il y aura des hommes comme le patriarche Rai, alors oui, on peut penser qu'il y aura un jour ou l'autre un peu plus de lumière, un peu plus de clarté dans les cœurs d'Orient.
Vous pensez revenir voyager bientôt dans ces coins-là ?
Oui, bien sûr.
Pour quel projet ? Pour d'autres articles peut-être ?
D'abord parce que je suis attendue pour parler justement, comme aujourd'hui très gentiment vous me le proposez, du comment et du pourquoi. Parce que jamais une femme laïque, non membre du clergé, n'a approché un patriarche de cette façon-là. Pourquoi ? Je ne le sais pas vraiment, mais je peux raconter comment ça s'est passé.
Donc vous voulez continuer à porter sa voix et cette voix si singulière autour de vous ?
En tout cas, j'aimerais continuer à porter des voix vraies et justes. Des voix qui sont habitées par une droiture, une grande rectitude, oui, dans un esprit de vérité tel que celui du patriarche, oui.
Ce matin, dans Chrétien d'Orient, avec Sébastien de Courtois, nous étions avec Isabelle Dilman pour un très très beau livre. Au cœur du chaos, la résistance d'un chrétien en Orient, le patriarche Béchara Rai, chez Albin Michel. Je remercie Delphine Baudet, Didier Pinault, Dadny Girnaud pour la réalisation de cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture en balado-diffusion. Et nous retrouvons maintenant Michel Schaeffer et le service protestant. Merci.